Nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est vrai, on a des hôpitaux performants, on a des psys, en veux-tu, en voilà, on a des biens matériels à plus savoir quoi en faire, même ici. Hein. On se pose ici, dans cette église, des questions comme est-ce qu'on achète une batterie classique ou une batterie électronique pour le culte ? Et je ne vais pas attaquer aux gens qui ont eu ce genre de conversation dans l'église au passage, c'est pas l'idée. En fait, on a raison de se poser ces questions. Dieu nous a bénis avec des moyens considérables, il nous demande de bien les administrer, et bien les administrer, ça passe aussi, effectivement, par le fait d'être en phase avec l'époque et avec les standards de la société qui nous entoure, donc c'est des questions qu'on est appelé à se poser. Mais il faut reconnaître que c'est un exercice périlleux auquel on est tous confrontés ici, non seulement en Église avec des questions de ce type, mais aussi dans nos vies personnelles, parce que nous vivons dans un pays riche, et que dans un pays riche, le risque est grand de s'embourgeoiser. Et que quand on s'embourgeoise de trop, eh bien on désapprend à dépendre de Dieu et on apprend à compter sur nos propres richesses, sur nos propres ressources matérielles. Alors quand les ressources matérielles viennent à manquer, on s'immobilise parce qu'on n'est plus habitué à exercer notre foi. Mais nous parlons de mission aujourd'hui. Alors on a entendu parler à la fois de la mission d'Alban, des missionnaires qui sont partis. On a entendu parler de notre contribution possible et qui est importante. Et moi aussi, je suis fier de cette Église et de sa contribution à la mission qui est forte. Et on a raison. Mais je voudrais parler aujourd'hui de ce que nous, on peut apprendre de la mission. Et ce que l'histoire de la mission nous apprend à nous, c'est que l'Évangile n'a pas attendu que l'Église soit riche pour se répandre. En fait, c'est même plutôt le contraire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un pays où l'Église n'a rien, mais où l'Évangile explose pourtant. Ce que vivent nos frères et sœurs à Cuba, car c'est de ce pays qu'il s'agit, ça n'est pas que leur histoire, c'est une invitation pour nous à nous confier en Dieu plutôt qu'en nos propres sécurités. Cette prédication, je l'ai appelée « Église pauvre, cœur riche, comment l'Évangile se répand dans l'adversité ». Et on va ouvrir nos Bibles. Aujourd'hui, il n'y a pas de PowerPoint, il va falloir ouvrir les Bibles. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça nous rappelle que c'est là que ça se passe quand même. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, et je lirai les versets 12 à 18. Philippiens 1, versets 12 à 18. Mais avant, je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton évangile, pour cette bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons reçue, qui a changé nos vies et que tu nous appelles maintenant à transmettre de par le monde. La mission au plus proche avec nos voisins, nos amis, ceux qui nous entourent, la mission aussi au plus loin avec ceux qui effectivement n'ont même pas accès à la parole dans leur propre langue. On en a entendu parler tout à l'heure avec Madagascar notamment, mais tant d'autres endroits, Seigneur, où les gens sont tributaires finalement de ce qu'on leur dit de toi, mais n'ont pas accès à la source première, Seigneur. Alors nous sommes reconnaissants pour cette parole qui nous est parvenue, que nous pouvons lire dans notre langue, et nous te prions, Seigneur, en nous en approchant, Seigneur, nous te prions que ton Saint-Esprit nous éclaire et nous illumine. Au nom de Jésus. Amen. Donc Philippiens 1, versets 12 à 18, nous dit « Je souhaite que vous le sachiez, mes frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. » Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût des disputes, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe. De toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis, dit Paul. Paul donc est en prison. On peut difficilement faire plus pauvre et plus démuni pour annoncer l'Évangile, mais il fait cette affirmation qui peut paraître surprenante. Sa situation, le fait d'être en prison, a contribué à l'expansion de l'Évangile parce que tout le monde sait pourquoi, ou plutôt pour qui, il a été emprisonné. Son emprisonnement, en fait, a fait une pub incroyable au message qu'il portait. Et la nouvelle de son arrestation, loin de refroidir les ardeurs des chrétiens quant au témoignage de la bonne nouvelle, les a au contraire encouragés, motivés. Certains le font avec de bonnes intentions, d'autres le font parce que, Paul étant en prison, il y a une place à prendre, il y a un statut à gagner dans les églises, mais Paul s'en fiche. Quelle qu'en soit la raison, le Christ est annoncé, dit-il, et moi je m'en réjouis. Et je me suis demandé pourquoi les chrétiens redoublent d'ardeur alors que Paul a été arrêté. Pourquoi est-ce que ça les a encouragés plutôt que freinés? Je ne suis pas sûr que moi ça m'encouragerait de savoir que deux ou trois d'entre vous ont été arrêtés parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Mais je vois deux raisons possibles. La première, c'est que l'arrestation de Paul a été une formidable caisse de résonance pour le message de l'Évangile. Des gens se sont intéressés à cette histoire, à la raison pour laquelle il a été arrêté. Et du coup, les occasions de témoigner se sont multipliées. Et ça déjà, c'est encourageant. Et la deuxième raison, c'est que la persécution n'a en fait jamais arrêté les gens porteurs d'un message qui les dépasse, d'un message qui est plus grand qu'eux, plus grand que leur propre vie. C'est vrai dans l'Église, mais c'est vrai dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais cette semaine, Mehdi Kessassi, un jeune de 20 ans, a été enterré à Marseille. C'est un jeune qui a été assassiné le 13 novembre dernier sur fond de narcotrafic, mais lui n'avait rien fait, rien du tout. C'était un type lambda, un jeune lambda, qui s'apprêtait à passer un concours pour entrer dans la police. Son seul tort, c'est d'avoir un frère aîné, Amine, qui lui venait de sortir un livre dénonçant le narcotrafic. Et il le dénonçait parce que 5 ans en arrière, il avait perdu un autre frère, assassiné lui aussi, cette fois sur fond de trafic de stupéfiants. L'assassinat de Mehdi, c'était un avertissement pour Amine suite à l'écriture de son livre. Alors j'ai entendu Amine dans une interview toute récente, où un journaliste lui a demandé s'il avait peur, est-ce qu'il a peur pour sa vie. Et il a répondu « On m'a brûlé mon premier frère dans le coffre d'une voiture, on vient de tuer le deuxième, vous voulez que j'aie peur de quoi maintenant ?» Le message d'Amine, son combat, est désormais porté par l'énergie du désespoir. Celui des premiers chrétiens était porté, lui, par une énergie tout autre, l'énergie d'une ferme espérance, par leur conviction de marcher à la suite de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et dans un cas comme dans l'autre, le message est plus grand que le porteur du message. Et ça, c'est inarrêtable. Et c'est d'autant plus vrai pour le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand les temps sont durs, Dieu marche devant son peuple. Alors je vous amène à Cuba. Le pays, au moment où je vous parle, traverse une crise politique, économique, sociale et spirituelle sans précédent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ACC, c'est-à-dire l'Alliance des chrétiens à Cuba. À cette crise sociale s'ajoute une répression croissante à l'encontre des leaders religieux. Et comme si ça ne suffisait pas, l'île a dernièrement été frappée par l'ouragan Mélissa. La conférence des évêques de Cuba a parlé de cet événement comme étant une tragédie nationale. Alors autant vous dire que la vie à Cuba n'est pas simple, que la réalité des chrétiens de Cuba est assez loin de la nôtre et que leurs préoccupations et priorités sont tout à fait distinctes des nôtres. Et pourtant, ça ne les décourage pas. En fait, on assiste à une explosion du nombre d'églises dans le pays. Et on en revient à ce que je disais en introduction, finalement, parce qu'ils manquent de tout et parce qu'ils voient bien que les institutions ne les aident pas, les voilà qui tournent leur regard vers Dieu, le Dieu seul qui peut les sauver. Et ils le font malgré les persécutions et malgré les privations qui leur sont imposées. Au 1er siècle, la vie des chrétiens n'était pas simple non plus, Persécutés par les Juifs d'abord, puis par les Romains, leur vie n'était pas un long fleuve tranquille. En même temps, il en était ainsi de tout temps pour le peuple de Dieu. En fait, on est une exception, nous, ici, en Occident. Et c'est assez curieux de voir que dans un contexte de persécution et d'exil, ça me fait presque mal de le dire comme ça, Dieu ne demande pas à son peuple de se soulever contre l'oppresseur. Franchement, moi je préférerais, j'aimerais bien, mais c'est pas ce qu'il fait. Il lui demande pas de prendre les armes, il lui demande pas de monter une rébellion. Il y a même dans l'histoire du peuple de Dieu des moments qui peuvent paraître franchement particulièrement scandaleux pour ceux qui sont épris de justice. Je vais en prendre qu'un, c'est Jérémie 29, 7, où Dieu dit à son peuple qui a été déporté en captivité à Babylone, donc il faut s'imaginer la scène, hein, c'est des gens qui ont été envahis par l'ennemi qui les a emmenés avec eux dans son pays. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là? Il dit « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Jérémie 29, c'est ce fameux passage qu'on aime bien citer parce qu'il nous encourage, qui dit « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et on dit « Amen !» et on met ce verset dans nos maisons et on se dit « Ouais, c'est le Seigneur, il veut mon bien. » C'est vrai, mais il dit ça, Dieu, après avoir annoncé à son peuple qu'ils allaient rester 70 ans en captivité et qu'il ferait mieux de s'y habituer parce que ça va durer. 70 ans, c'est toute une vie d'homme, c'est trois générations. Alors, il y aura une sortie, il y a une promesse, il y a une sortie, mais elle n'arrive pas tout de suite. Ils vont devoir vivre en espérance, et ça va durer longtemps. Le peuple de Dieu est appelé à persévérer dans l'adversité. Le Seigneur lui-même marche devant toi, dit Dieu à Josué, qui s'apprête à conquérir la terre promise après 40 ans à marcher dans le désert. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Ce n'est pas une promesse de confort, ça, c'est une promesse de présence. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que quand la vie secoue, quand les ressources viennent à manquer, Dieu ne se retire pas. C'est tout le contraire qui se passe. Un certain évangile qui n'en est pas un établit une corrélation entre bénédiction et bien-être. Tu es bien, tu es prospère, c'est que Dieu t'a béni. Tu es mal, c'est difficile, c'est compliqué, il doit y avoir un péché quelque part là. Et c'est vrai que tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut, dit Jacques 4, verset 7, il descend du Père des Lumières. C'est vrai aussi qu'une vie de péché nous emmène dans des galères impossibles, mais Jésus avertit aussi ses disciples de la persécution à venir. Et même sans parler de persécution, si on veut parler, je dirais, du malheur commun, celui qui frappe tout un chacun, Job pose cette question rhétorique. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? Et pour si ce n'est pas clair, ce même verset de Job 2, 10 ajoute « En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Quand les ressources manquent, Dieu ne se retire pas. Il avance en première ligne, en tout cas si nous comptons sur lui. Et c'est souvent dans ces temps-là, lorsqu'on le laisse agir finalement, lorsqu'enfin on se sent impuissant, je dirais, et qu'on se tourne vers lui, c'est dans ces moments-là que l'Évangile avance le plus. Parce que quand l'Église manque de tout, Dieu, lui, ne manque de rien. Étienne se fait lapider. On est à la fin du chapitre 7 du livre des Actes. Premier martyr chrétien. Il se fait lapider parce qu'il vient d'annoncer clairement aux Juifs que ce Jésus qu'ils ont livré et assassiné, c'était le Messie. C'était le Messie. Et il termine en disant, parce que c'est ce que Dieu lui donne à voir dans une vision céleste, il dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et ça, c'est trop. Alors il le traîne à la sortie de la ville et il le tue. Ce jour-là, nous dit le texte, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Saul, lui, ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ça, c'est Actes 8, versets 1 à 3. Et ensuite, il y a le verset 4 qui dit « Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. » Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit des gens qui pensent qu'en faisant exploser la communauté chrétienne de Jérusalem, ils vont venir à bout de cette foi naissante dans le Christ Jésus. Et ils se trompent, parce que si vous mettez un pétard dans un gâteau, vous ne détruisez pas le gâteau, vous l'éparpillez. Et comme en plus il ne s'agit pas d'un gâteau, mais de chrétiens, qui sont chacun porteurs d'une bonne nouvelle qu'ils n'arrivent pas à taire, l'Évangile se répand. Les chrétiens se multiplient, et en 3 siècles, le christianisme persécuté va devenir la religion d'État de ses propres persécuteurs. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Mais en tout cas, ce que je vois, ce qu'il faut bien constater, c'est que la persécution de l'Église primitive n'était pas la meilleure manière de la freiner. À Cuba, les communautés chrétiennes connaissent également une croissance incroyable et les fruits sont visibles. Le BMI, qui est l'Église baptiste en mission internationale, donc c'est les baptistes qui partent en mission un peu partout dans le monde, nous rapporte par exemple que dans un bidonville de la Havane, le taux de criminalité a considérablement diminué depuis que l'Évangile a atteint la population. Et donc dans ce bidonville, il y a une congrégation qui compte aujourd'hui 100 de membres avec un couple pastoral qui organise des clubs bibliques, qui ont monté un projet sportif missionnaire pour les enfants et les jeunes. Bref, ça fonctionne bien, ça marche bien pour cette église. Le BMI nous rapporte aussi l'histoire des parents d'Aurélia qui n'ont pas pu voir leur fille se faire baptiser pour la bonne raison qu'ils sont aveugles, mais qui l'ont entendue et qui ont notamment entendu sa joie quand elle professait sa foi et qui ont senti sur leur peau l'eau dans laquelle elle a été baptisée et qui ont vu avec les yeux de l'âme toute la communauté de Zaldo, un quartier de la Havane, célébrer le baptême de leur fille avec eux. Alors oui, Dieu agit à Cuba, au milieu des circonstances adverses, désastreuses, traversées par le pays. Dieu a agi à Jérusalem, au 1er siècle, pendant la persécution. Et Dieu agira également au milieu de nous, à condition que, comme eux, et quelle que soit la prospérité matérielle qui est la nôtre, nous reconnaissions notre besoin et notre dépendance du Seigneur. Parce qu'une chose est sûre, l'Évangile avance mieux quand le Seigneur ouvre la route, que lorsque ce sont notre force financière, nos moyens techniques ou nos stratégies qui le font. Nous sommes à l'avant-veille d'élections majeures pour le pays et nous vivons dans un monde, vous l'avez peut-être remarqué ou entendu, notamment cette semaine, un monde aux dangers multiples. Quand j'étais enfant, au fond, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais devoir choisir entre Giscard ou Mitterrand, comment vous dire ? Ça n'allait pas changer la face du monde, de mon point de vue, parce que le monde était en paix. Aujourd'hui, les choses sont différentes, les enjeux sont différents. Il nous faut considérer, je crois, avec sérieux ce qui se passe autour de nous. Mais il ne faut pas non plus se laisser happer, comme je le vois à chaque élection dans les milieux chrétiens, par la prétention des uns et des autres à être l'homme ou la femme providentielle. Allez, je le dis. Le monde n'est pas dans la main de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Le monde n'est pas dans la main d'Emmanuel Macron ou de Raphaël Glucksmann. Et le monde n'est pas non plus dans la main de celui ou de celle qui va sortir au dernier moment du chapeau des présidentiables. Le monde est dans la main de notre Dieu. Et notre mission à nous, elle est double. Premièrement, comme pour les déportés de Babylone, recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé, dit le Seigneur, et intercédez pour elle, car votre paix dépendra de la sienne. Nous sommes tous des exilés, parce que le royaume que nous servons n'est pas de ce monde. Recherchez la paix de la ville ou du pays, intercédez pour eux, voilà ce qui doit guider notre conscience avec sérieux et avec tout ce que ça peut impliquer d'engagement dans la cité, y compris d'engagement politique, mais sans illusion quant à un éventuel sauveur qui sortirait de ses rangs. Deuxièmement, comme pour les chrétiens du 1er siècle, ceux de Cuba ou ceux dont on a parlé la semaine dernière lors du dimanche de l'Église persécutée, là où ils passaient, nous dit Acte 8, ceux qui avaient été dispersés, nous-mêmes, annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. La voilà, la mission. Et pour cette mission, nul besoin d'être riche. Pas besoin d'être de fin stratège, Pas besoin d'être en position de force. Ce dont nous avons besoin, fondamentalement, c'est d'être en cœur à cœur avec notre Seigneur. C'est dans l'intimité de notre prière, de notre lecture de sa parole, de notre qualité d'écoute et donc de notre disponibilité de cœur que tout se joue. Pour que Jésus multiplie les pains, il ne faut pas arriver avec des paniers déjà pleins. Pour que la pêche soit miraculeuse, il ne faut pas venir avec un de ces chalutiers qui vient racler les fonds marins. Pour que l'eau soit changée en vin, il ne faut pas que le Bordeaux coule à flot, n'est-ce pas ? Pour que Dieu agisse avec puissance, il faut des mains vides, il faut des cœurs assoiffés, il faut des âmes affamées. Ils étaient 12 et en 3 siècles, l'Empire romain abdiqué sans qu'aucun chrétien ne tire l'épée. Nous sommes 200. Vous imaginez ? On est 200. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que c'est vrai que tu nous as bénis par une prospérité matérielle qui est de très loin pas partagée par toutes les églises du monde entier. Tu nous as même bénis par une prospérité spirituelle, Seigneur. Nous avons des Bibles à plus savoir quoi en faire, des traductions dans tous les sens. Il y en a pour les femmes, il y en a pour les SDF, il y a des versions spéciales à paillettes, il y a tout ce qu'on veut. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ça. Nous voulons te rendre grâce pour ça. Nous voulons reconnaître que c'est une bénédiction qui vient de toi, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, que toute cette prospérité-là nous endorme. Et en particulier, nous ne voulons pas que cette prospérité-là nous fasse oublier notre dépendance de toi. Nous ne voulons pas oublier que tout ça vraiment vient de toi, que c'est un cadeau et que c'est absolument pas une évidence. Que tout ça pourrait nous être retiré demain, Seigneur. Et que pour autant, toi, tu resterais Dieu. Tu resterais souverain sur toute chose. Seigneur, nous ne voulons pas que cette prospérité nous endorme et nous fasse oublier la mission qui est la nôtre, qui est de répandre ton évangile. Seigneur, nous voyons que quand la persécution arrive, quand les temps difficiles arrivent, Seigneur, les cœurs se tournent vers toi parce qu'ils n'ont plus d'autre choix en réalité. Nous, j'ai presque envie de dire, malheureusement, nous avons d'autres choix, d'autres opportunités, d'autres manières de faire, d'autres ressources que toi. Seigneur, que notre réflexe ne soit pas de nous tourner vers elle en premier, Seigneur, mais que notre réflexe soit de nous tourner vers toi toujours. Nous ne voulons pas nous reposer, Seigneur, sur cette prospérité qui est la nôtre. Nous voulons nous reposer sur toi. Je te prie pour que chacun d'entre nous, cette semaine ou dans les semaines à venir, Seigneur, vraiment on retrouve le chemin de la prière, de la lecture de ta parole, le chemin de la dépendance, Seigneur. Qu'on ait cette audace de te faire confiance à toi plutôt que de faire confiance à nos propres moyens. Parce que sinon, nous voyons ce que nous sommes capables de faire, mais nous ne voyons pas ce que toi, tu es capable de faire. Ce que nous voulons voir, nous, c'est ton œuvre, c'est ta manière d'agir. C'est ce que toi, tu fais, Seigneur, alors que nous t'apportons seulement 5 pains et 2 poissons, Seigneur. Nous ne voulons pas venir avec nos paniers pleins, Seigneur. Alors, toute cette prospérité, Seigneur, nous voulons te la remettre, déclarer qu'elle t'appartient et que toi, tu en fais ce que tu en veux. Nous te prions pour tous ceux qui manquent de tout aussi et nous voulons nous rappeler d'eux. Puisque nous avons tout ce qu'il nous faut, nous voulons contribuer à ce que ta grâce se répande sur eux par nos propres moyens matériels, Seigneur. Si tu nous demandes, Seigneur, de donner pour la mission, eh bien, nous voulons t'obéir. Si tu nous demandes de nous engager et d'aller voir sur place à quoi ça ressemble, une vie dépourvue de tout, à quoi ressemble la foi de ceux qui n'ont rien, eh bien, Seigneur, nous voulons écouter ton appel, nous voulons t'entendre. Et je te prie de nous parler dans ce temps que nous mettrons à part pour toi cette semaine, pour rendre notre cœur disponible, pour t'écouter. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.